Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Boudelux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour Goodlux Paris, l'édition du week-end. Et vous savez que désormais, Goodlux Paris, c'est tous les jours entre 13h et 15h. Je vous retrouve en solo sur BFM Business et tous les week-ends. J'ai le plaisir de retrouver mon acolyte de toujours, Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux.
Oui.
Comment ça va, Emmanuel?
Ça va très bien, là. Bah, surtout que vous m'avez, enfin, pour ceux qui ont le plaisir de nous regarder à la télévision.
Vous êtes très chic.
Je découvre un nouveau look.
Très bien.
On n'en dit pas plus. Hein.
Non, on n'en dit pas plus. On
en
parlera tout à l'heure.
Vous expliquerez pourquoi j'ai l'air d'un clown.
Vous n'avez pas du tout l'air d'un clown. Cette semaine, dans Goodlux, nous allons parler des grands, des blonds. Non. On va arrêter là les clichés, les idées reçues. N'empêche que nos Goodlux vont avoir quelque accent suédois ou danois à l'occasion de la sortie du guide La Scandinavie à Paris aux éditions Duchesne. On vous emmène faire une balade dans ce Paris scandinave grâce à nos invités. Axel Gilden, pardon d'ores et déjà pour la prononciation. Donc Axel Gilden, co-auteur du guide Paris scandinave. Maria Wettergren, elle est galeriste à Saint-Germain-des-Prés. Peter Todstrup, c'est la petite sirène de Copenhague, le restaurant du côté de la rue Notre-Dame-de-Lorette. Et puis Gunilla Noren, elle est programmatrice à l'Institut suédois. Mais tout de suite, les nouveautés de la semaine.
Goodlux Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et avant de traditionnellement commencer par une petite table avec vous, Emmanuel, une semaine un petit peu triste, on a deux hommages à rendre pour commencer cette émission. D'abord à Maria Luisa Pumayou. Maria Luisa Pumayou, figure de mode et dénicheuse de talent qui est décédée mercredi. Elle a été fondatrice de concept store autour de la mode, de boutiques multimarques. C'est elle qui a lancé des gens comme Martin Margiela ou encore Alexander McQueen. Elle avait créé sa première boutique rue Cambon. Et là, elle était acheteuse au printemps. Voilà pour la disparition. On lui tire notre chapeau, Maria Luisa Pumayou. D'ailleurs, les messages de soutien ou en tout cas de tristesse
dommage,
se sont multipliés sur Internet auprès de tout le monde de la mode. Et puis, un autre grand nom de la mode, c'est Francesco Smalto, qui a disparu dimanche dernier. C'est le plus français des tailleurs italiens. Il avait créé sa maison en 1961. Alors, depuis, elle avait été revendue au début des années 2000 au groupe Alain Duménil. Mais voilà, c'est quand même une entreprise aujourd'hui qui est encore entreprise du patrimoine vivant et qui avait vraiment transformé le tailleur.
Et puis surtout, c'était un vrai tailleur. C'est-à-dire, vous savez, dans le monde des couturiers, il y a beaucoup de créateurs, de directeurs artistiques, mais quand on leur met un ciseau entre les mains, certains ne savent pas vraiment quoi en faire. Il avait le respect, Smalto, parce que tout le monde de la couture savait que lui, avec un ciseau entre les mains, il pouvait vous tailler un costume, lui tout seul. Donc c'était à la fois quand même une idée de la mode, et puis surtout aussi une main de la mode, un personnage.
Voilà pour les hommages. Allez, la table de la semaine, Emmanuel, Family Lily
Impérial. Alors c'est un restaurant chinois et on l'a vu ces dernières saisons à la Chine, sort un petit peu de ce côté Chinatown, cantine plus ou moins améliorée. Alors soit avec des restaurants très marqués dans le terroir chinois, c'est un pays continent, soit avec des restaurants très haut de gamme mais de plus en plus affûtés. Family Lily Impérial, c'est une chaîne très pointue, un peu comme Nobu, qui est semée du côté de l'Australie à Melbourne, bien sûr à Pékin, bien sûr à Shanghai, qui débarque pour la première fois à Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré, deux menus dégustation, au déjeuner comme au dîner. Et alors vous allez voir, c'est une Chine vraiment du côté de la cuisine impériale, hein, donc du côté vraiment de ce qu'il y a de plus haut de gamme, de plus codifié dans cette cuisine asiatique, mais travailler ici et présenter de manière quasi milliarde. On a presque le sentiment d'une touche nippone, des petites bouchées avec plein de plats qui sont soit des classiques comme le canard pékinois, on connaît tous, en deux services avec ces petites crêpes que l'on becte comme ça du bout des doigts, ou bien des plats plus inattendus, plus aventurés. Puis un plat, rapidement, pour vous dire toute la puissance de cette adresse, certains sont un peu décevants, peut-être un peu insipides, certains plats, mais c'est pas grave. Ils aiment aussi la Chine, pas toujours marquer les goûts. C'est aussi un éloge du tiède. Mais alors un plat exceptionnel, c'est un bouillon de poule dans lequel viennent s'effondrer des nouilles croustillantes. Mais alors surtout ce bouillon de poule, on a l'impression de déguster de manière liquide un vrai poulet rôti. On imagine le temps qu'il a fallu pour que le poulet, la carcasse, soit comme ça longuement mijoté. C'est d'une densité. Vous savez, quand il y a les bouillons, on aime bien employer le mot dense. Là, j'ai rarement eu autant de densité. Rien que pour ça, ça vaut le goût. Alors, c'est dans les tarifs haut de gamme, rue du Faubourg Saint-Honoré, l'arrivée à Paris de Family Lily Impérial.
Slurp. C'est comme ça qu'on fait, hein, quand on prend le petit bouillon
poule
avec les pâtes. Allez, tout autre chose, dans le grand classique parisien, les cabarets. Il n'y en a plus, hein, ça y est, il y en a en fait deux. Hein, le Moulin Rouge et Lido. Et du coup, c'est un petit peu la guerre, là.
Et, Crazy Horse, c'est pas vraiment un cabaret.
Voilà, donc en tout cas, là, ils sont dans les starting blocks pour la nouvelle saison. D'un côté, le Moulin Rouge, et alors là, exit d'Aloyo, ils font appel à un chef vraiment en interne, qui est David Lekelec. Donc il y a quand même 120 mètres d'hôtel, il faut servir près de 900 places, il y a une brigade de 25 cuisiniers. Lekelec, il est passé par le doyen Taïwan ou encore le 5 du Georges V. Donc à voir, il vient tout juste d'arriver.
Peut pas faire pire que ce qu'on y mangeait jusqu'à présent.
Hein. Vous irez tester peut-être, avec Emmanuel. Voilà.
Enfin, le problème, c'est que se font piquer la vedette, les assiettes dans ce genre d'endroit.
Exactement. Vraiment... Mais c'est quand même important.
C'est important.
Deuxième chose, le Lido. Alors là, non seulement petite rénovation, mais surtout fini la revue Bonheur qui était là depuis des années. Nouvelle revue créée par Franco Dragone. Et alors là, c'est tout autre chose parce qu'on y verse du cirque, parce que bien sûr, il y a toujours les petits clins d'œil traditionnels, les plumes, que sais-je. Mais on joue beaucoup sur les lumières, on joue beaucoup sur la vidéo. Et on a vraiment autre chose, vraiment.
Mais
vous allez trouver
peut-être
moins de féerie, plus de cirque, d'effets de lumière.
C'est un peu l'effet Vegas, cirque du soleil.
Exactement. Exactement. On est dans cette veine-là en ce moment au Lido. Allez, Web de Luxe.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, Web de Luxe.
Sandy Prenois, bonjour. Comment ça va?
Très bien, très bien.
Et ne riez pas, ne regardez pas.
Non, c'est vrai que j'ai le sourire qui monte. Vous me faites penser un petit peu à Gros Minet comme ça.
Oui, c'est ça, on en reparle dans 5 minutes, allez-y, Web de Luxe.
Alors, Castelbajac.
Castelbajac Paris, un nouveau site, 4 rubriques, on découvre la ligne principale, la ligne JCDC par Castelbajac, un petit peu plus abordable. La rubrique créateur, donc tout l'univers, son nom l'indique, de Jean-Charles de Castelbajac, je cite, de la création de la maison à ses inspirations en passant par ses muses et ses plus emblématiques réalisations, et puis une rubrique magazine, un magazine qui s'intitule Apiculture pour découvrir tout ce qu'on ne saurait pas déjà. C'est sur http://jc-2-castelbajac. Castelbajac.com.
Mais c'est vrai que l'univers de Castelbajac, il est tout à fait fait pour le digital, quoi.
Complètement, parce que c'est très coloré, c'est
tout cet aspect pop sur JC de Castelbajac avec des tirets. C'est toujours un vrai plaisir, pour donner les adresses. Allez, tout autre chose. Vous parliez de table chinoise tout à l'heure, et Emmanuel. Il y en a notamment une au Peninsula Paris. Oui. Mais là, on va pas parler table, on va parler fashion.
Fashion, table, culture. En fait, le Peninsula s'associe avec netapporter.com pour proposer des mini-guides. En fait, l'idée, c'est de tracer un 1,5 km autour de chaque Peninsula des 10 villes dans lesquelles ils se trouvent et de proposer un petit mini-guide qui sera présenté sur chaque site de Peninsula en français, anglais, chinois et japonais. Et puis également ce mini-guide sur le site netapporter.com en français, anglais, chinois et allemand. L'idée, c'est de retrouver à travers 4 petites rubriques la présentation détaillée de chaque hôtel Peninsula en question. Donc les villes sont à Paris, Hong Kong, Shanghai, Manille, Beverly Hills, New York, Bangkok, Tokyo et puis Pékin. Et puis on a aussi la vie culturelle, les restaurants et spectacles incontournables, et puis le shopping et la mode.
Là, dans un rayon d'un kilomètre.
D'un kilomètre cinq autour de chaque Peninsula.
Un kilomètre cinq, dans le rayon d'un kilomètre cinq du Peninsula Paris, il y a plein de beaux hôtels.
C'est ce qui est marqué. C'est vrai que maintenant
on peut
vous me dites.
Tu vois, Chandrila, c'est pas loin. Le Plaza, c'est pas trop loin.
J'étais pas très forte en maths, mais c'est vrai que là, quand même, vous soulevez quand même une interrogation.
Le Peninsula est sport. Chic et gentleman.
En tout cas, on trouve tout ça sur le Peninsula et net à porter. Merci beaucoup, Sandy. Vous restez un petit peu avec nous. Alors, on va passer justement, puisqu'on fait monter la sauce depuis tout à l'heure, directement à l'objet de la semaine. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, Emmanuel Rubin est un homme élégant, très élégant même. Il a sorti le nœud pape. Mais attention, pas n'importe quel nœud pape. Le nœud pape de Gustave et compagnie. Et quelle est la spécificité de ce nœud papillon? Eh bien, il est... D'abord, il est rouge, mais il existe
rouge pétard, en
plusieurs coloris. Je crois qu'il y a 25 modèles différents fabriqués en France.
Je vois que vous avez bien choisi, c'est assorti à vos ongles.
Exactement. Celui-ci est en métal. En fait, il est en acier. Voilà. C'est joli, hein. Ça change.
Très joli.
Vous savez, je vous avais parlé des nœuds papes en bois, c'est la grosse tendance maintenant, un grand retour du nœud pape.
On a l'impression un peu d'avoir une hélice autour du cou.
Oh, ce sont les designers Guillaume Raymond et Timothée Barbier. En fait, à l'origine, ils font du mobilier en métal, ça s'appelle ZZHED. Ils sont installés en Bourgogne et donc un jour...
Mais c'est lâchement bien.
C'est découpé dans l'acier, ça s'attache avec le petit dispositif tout simple devant, comme ça c'est très facile à mettre tout seul. 55 euros, Hein, et ça s'achète sur gustave-et-cie.fr. Vous appelez Gustave et compagnie.
Que ce soit bourguignon. Il y a une grande culture de la forge en Bourgogne. Forge les eaux, le Creusot, c'est les forgerons. Le Guignon, les appelait les forgerons. C'est le club de foot, mais bon. Donc ça m'étonne pas qu'ils travaillent joliment le métal et ça réinvente le nœud papillon à ces bourguignons.
Ah, c'est vrai. Et puis ça vous va bien. Ça vous va bien, Emmanuel.
En finale de la Coupe de France.
C'est peut-être le rouge. Mais le rouge, ça ressort bien en télé, c'est pour ça.
Oui.
Mais évidemment, il y a
en
des coloris
plus sur...
Très bien. Ou bleu marine avec votre veste pour la prochaine fois, on y pensera. Ça s'appelle Gustave et compagnie. Sandy Prodin, merci beaucoup à vous. Rigolez pas, la prochaine fois, c'est pour vous.
La transition est toute faite, car Gustave est un prénom éminemment suédois. Puisque les rois de Suède s'appellent pour souvent, très souvent, Carl Gustav. Donc on va pouvoir partir en Suède.
Le Paris scandinave, tout de suite.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Boudelux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Hey, hi, des Goodnux à l'accent suédois et danois cette semaine à l'occasion de la sortie du guide La Scandinavie à Paris aux éditions du Chanon. Vous l'avez déjà annoncé, mais voilà, aujourd'hui, quelques-uns de ces illustres auteurs et surtout compositeurs, j'ai envie de dire, de ce guide sont sur notre plateau. Et d'abord, le premier, le co-auteur Axel Gilden, bonjour.
Bonjour.
Co-auteur du guide donc Paris Scandinave aux éditions du Chêne franco-suédois.
Oui, je suis franco-suédois en effet.
C'est bien ça. Donc vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure. Nous sommes également en compagnie de Gunilla Norén. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes programmatrice à l'Institut suédois à Paris. Et donc vous aussi, c'est suédois. La Suède. C'est bien entendu.
Musicale.
Musicale.
Pas programmatrice informatique.
Maria Wettergren, bonjour.
Bonjour.
Galeriste, vous avez une galerie à votre nom dans le 6e arrondissement de Paris et vous venez du Danemark.
Absolument.
Et puis également avec nous, que serait la Scandinavie sans la gastronomie, hein. On s'est bien fait doubler sur la gauche dernièrement en France par les Scandinaves. Peter Tulstrup. Hein, c'est pas mal ça.
Bravo.
La petite sirène de Copenhague, rue Notre-Dame de Lorette, dans le 9e arrondissement de Paris. Vous allez bientôt fêter vos 20 ans déjà.
Enfin, les 20 ans de la maison. Hein.
Ah, mais les 20 ans de Peter.
Peter, il a un peu plus de 20 ans quand même.
J'ai plus 20 ans.
Moi, je veux bien que le Grand Nord conserve, mais.
Oh. Suède, Danemark, on n'est pas au complet finalement, Axel, là, aujourd'hui. Parce que la Scandinavie, c'est ce que vous rappelez quand même dans votre guide. Voilà. Vous dites, attendez, il n'y a pas que Ikea, il n'y a pas que H&M. Je vais vous expliquer d'abord déjà ce qu'est la Scandinavie. Et qu'elle est bien autre chose que ça.
Voilà, parce que la Scandinavie, si vous voulez, c'est un peu comme le Japon, c'est un peu terra incognita. On a tous une vague notion de ce dont il s'agit, mais en fait assez vague. Et pour commencer, les gens n'identifient pas toujours bien les 5 pays qui composent les pays nordiques. En réalité, les pays scandinaves sont le Danemark, la Suède et la Norvège, auxquels on ajoute la Finlande et l'Islande, que par commodité on inclut dans les pays scandinaves. En réalité, ce sont 3 pays scandinaves, 2 pays nordiques, qui forment l'ensemble des 5 pays nordiques. Et donc dans ce guide que j'ai fait avec mon co-auteur, Katia Barrio, qui est donc elle 100% parisienne, tandis que moi je suis franco-suédois.
Vous êtes la légitimité du guide.
Voilà, on a fait une espèce d'association, je dirais quasi idéale. C'est le guide de la Scandinavie à Paris avec elle, parce qu'elle est une fashionista, une connaisseuse très pointue de Paris et de ses adresses. Et on a fait le tour de précisément ce qu'il y avait à Paris d'intéressant. Il y a beaucoup de choses dans le domaine de la gastronomie, du design en particulier, du shopping.
De la mode et un chapitre entier pour les enfants.
Voilà.
Alors, autour des kids.
Voilà, les kids, c'est évidemment au centre de la société scandinave, de la culture scandinave. Toute l'architecture de la société suédoise, danoise et norvégienne est articulée autour de l'égalité homme-femme, donc du droit des femmes et du droit des enfants. Et donc, ça a généré des jouets, une inventivité aussi dans la création du design, mais aussi dans le design, d'ailleurs. Maria pourra en parler, dans les grands designers scandinaves, je crois que Kai Boyesen, si je ne me trompe pas,
oui, tout à
en
fait,
particulier,
oui.
Est connu.
Oui, et l'idée de l'innovation est effectivement vraiment au centre de l'esprit scandinave et dans le design scandinave, effectivement.
Oui, bien évidemment. Moi, ce qui m'étonnait dans votre ouvrage, c'est qu'au départ, quand j'ai vu qu'il allait avoir un livre sur la Scandinavie à Paris, je me dis, bon, un guide, ils vont se retrouver avec 10-15 adresses. et au final, je m'aperçois que le guide est assez épais, que vous avez trouvé beaucoup d'axes d'entrée, beaucoup d'adresses. Vous-même, très honnêtement, qui êtes... Il y a des très belles photos, on va reparler.
Oui.
Mais vous-même, qui êtes franco-suédois, donc qui avez cette double culture assez importante quand on fait un guide sur la Scandinavie, est-ce que vous pensiez au départ de l'action, avoir autant d'adresses, ou est-ce que dans vos pérégrinations, vous en avez découvert?
C'est une bonne question. En effet, moi, je pensais jamais qu'on aurait été capable de trouver 150 adresses. On doit ça à mon co-auteur, donc Katia Barrio, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a fait une enquête de terrain assez approfondie. Moi, j'en connaissais plein. Enfin, je veux dire, je connaissais les restaurants, je connaissais bien évidemment la petite sirène de Copenhague, je connaissais les galeries de design importantes, je connaissais l'Institut suédois, bien évidemment, ainsi que l'Institut finlandais, qui est un autre pôle culturel très important à Paris. Mais, je savais pas qu'il y avait, en particulier sur la mode. Bien sûr, je connaissais H&M, qui est le numéro un mondial du prêt-à-porter,
hein, devant Zara. Vous rappelez tout de même que les gens imaginent mal, mais beaucoup de gens ne savent pas que H&M, COS ou Acne, qui sont des marques aujourd'hui très... Alors, H&M et COS, qui sont des marques intelligentes, malignes, mais Acne, qui est plutôt à la pointe de la mode, sont toutes des marques scandinaves.
Another Stories, enfin, il y en a pas mal maintenant.
Chip Monday, Malène Birger, qui est danoise. Il y en a même une créatrice, Anna Ruonen, qui est finlandaise, justement.
Qui est extraordinaire, ouais. D'ailleurs.
Et tous ces gens-là ont pignon sur rue à Paris. Alors, pourquoi ils viennent s'installer à Paris? Finalement, alors je ne parle pas des H&M, c'est dans leur logique commerciale, mais pourquoi tous ces petits créateurs du design, de la mode, c'est important le passage? Je peux vous poser la question.
C'est la question, oui, c'est ça.
Je pose la question à Maria Janoise.
Maria Vettergren, c'est-à-dire que vous...
Oui, moi je pense qu'il y a une tradition de terre d'accueil à Paris. Et on a vu ça à l'école de Paris des années 10-20, et ça continue aujourd'hui. Paris et les Parisiens restent, comment dire, un peuple très, très curieux, très ouvert vers d'autres cultures. Et voilà, je pense que
Parce que vous êtes quand même né au Danemark. Vous avez fait vos études d'histoire de l'art à Copenhague. Vous avez, et en fait, au départ, vous ne pensiez peut-être pas forcément rester à Paris. Et on vous a demandé de créer ce pont par une galerie,
oui,
entre chez vous et ici.
Absolument. C'est-à-dire que j'ai commencé en fait en ouvrant la galerie d'une autre personne, de Dansk Møbelkunst, qui est la plus grande et la plus belle galerie de design scandinave vintage ou historique des années 50-60.
Dans le 6e arrondissement.
Voilà, qui est sur le quai de Grand-Augustin.
Et, avec des pièces pas chères, voilà. 10 000 euros, 20 000 euros pour un fauteuil.
Voilà.
Pour les Norvégiens, c'est
souvent, souvent plus cher que ça même.
Alors vous étiez dans cette galerie. Que voilà. Vous orchestrez un temps.
Voilà, et après 8 ans, j'ai eu vraiment envie de me pencher sur la nouvelle scène nordique, parce que j'ai vu qu'il se passait des choses extraordinaires, des créations incroyables, surtout avec un esprit interdisciplinaire qui mêle les nouvelles technologies, l'artisanat, l'art, et qui crée en fait de nouvelles type d'objet qu'on pourrait qualifier de entre la sculpture, le design et l'art. Et c'est là où ma galerie se
démarque. Et c'est intéressant aussi, oui. Vous l'avez ouverte en 2010, on y reviendra sans doute tout à l'heure, parce que ce guide, c'est aussi pour aller à l'encontre de certains clichés, parce qu'effectivement, il y a ces grandes enseignes que l'on connaît tous, mais on va voir que c'est toujours pareil. Quand on connaît mal un pays, on a le cliché du saumon fumé, on a le cliché du design bois épuré, etc. Il y a autre chose qui se cache derrière. Vous le disiez, Axel, vous avez été surpris par le nombre d'adresses que vous avez trouvées, mais qu'est-ce qui vous a surpris aussi de trouver de la Scandinavie à Paris? Finalement, est-ce que vous avez encore découvert des choses
par rapport à l'époque où moi j'étais enfant, la Scandinavie scandinave, il y avait pas la communauté scandinave, pardon, il y avait c'était la communauté européenne, donc il y avait pas la liberté de circuler, enfin il y avait très très peu de monde, je veux dire les Suédois, on était 350, quoi. Je sais pas si on était 1000, c'était aujourd'hui, et je crois qu'il y a 20 000 Suédois, par exemple. Les Danois, c'est pareil.
Alors, justement, juste un petit mot sur la communauté scandinave à Paris. Ouais. C'est une communauté, quoi, c'est économique. Ils sont là pour quelques temps, ils s'installent. C'est quoi le parcours et la rythmique de cette communauté?
Peut-être,
alors, les hommes d'affaires, les journalistes à l'Express. Donc, c'est un professionnel, donc il orchestre l'émission en même temps que nous. C'est utile, on le réinvitera. Merci, Axel. Donc, on passe la parole à Gunilla. Si on devait définir un petit peu la sociologie, le profil de la communauté scandinave à Paris, elle aurait quel caractère? C'est plutôt des hommes, plutôt des familles? Ils ont quel âge? Ils sont installés depuis longtemps? Ou est-ce qu'ils sont de passage le temps
Un peu de tout. Parce que déjà, c'est difficile de savoir parce qu'il n'y a plus la carte de séjour, donc on ne peut pas vraiment suivre qui sont vraiment là. Mais je dirais ce qu'on voit à l'Institut suédois, bon... Certes, notre grande majorité, c'est dans le public, c'est vraiment des Français, mais parmi les Suédois, il y en a vraiment beaucoup de jeunes qui passent peut-être une année, quelques années à Paris. Parce que c'est vrai que les Scandinaves partent souvent une année que nous appelons sabbatique. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. Ça veut juste dire qu'on part après son bac pour découvrir autre chose, apprendre une autre culture. Et je pense que c'est un peu le piège qui est peut-être de nous tous. Moi, en tout cas, j'étais partie pour 4 mois. Et
vous
mais voilà, 17 ans plus tard.
C'est un joli piège quand même.
C'est le piège, c'est la magie de Paris.
C'est très, très bien. Je ne regrette absolument pas mon choix. Mais je pense que ça, c'est une grande catégorie des Suédois. Après, je pense qu'on a beaucoup qui sont venus aussi pour des raisons économiques. Il y a beaucoup d'emplois ici pour les entreprises qui investissent en France. Il y en a beaucoup de grandes entreprises suédoises, justement, Securitas, IKEA.
D'ailleurs, on peut les citer, on est sur BFM Business, oui, ça ne joue pas.
et voilà, donc il y a vraiment de tout. Bien sûr, aussi, il y a ceux qui sont là depuis des décennies, qui étaient là par amour de la France. Voilà.
Mais, oui, et puis, c'est marrant, par exemple, vous, Peter Toulstrup, vous étiez chez Daniel Letts, c'est devenu le premier chef étoilé au Danemark, et c'est lui qui vous a incité à venir faire votre formation en France.
Tout à fait.
Ce qui serait peut-être plus vrai aujourd'hui, d'ailleurs.
Mais je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas autre choix. À l'époque, j'ai parti en 89, la France était quand même sur le sommet de tout ce qui est la cuisine, l'art culinaire, et donc il n'y avait pas autre choix. Donc j'ai parti en effet pour 6 mois en disant, je vais voir quelques grands chefs, voir ce qu'il faut, revenir et établir ma famille au Danemark.
Alors vous quittez donc le Danemark, vous allez dans quelle maison faire votre apprentissage en France?
J'ai parti parce qu'avec les peu de connaissances dans la langue française, j'ai acquis ça un peu dans la Haute-Savoie, Pays Basque, et j'arrivais par la suite à Paris.
C'est ça, alors Flaine, Saint-Jean-Pied-de-Port chez Firmin Rambide, tout de même. 2 ans, passage à la Tour d'Argent. Et puis voilà, à un moment donné, vous vous installez.
Et après l'amour m'atteignit ici à Paris. Donc je suis marié avec une Française. Et je trouve que c'est ça extraordinaire.
Vous êtes
passé
aussi.
Il y a quand même la Dream Team et la crème de la Scandinavie. Parce qu'on a l'Institut suédois qui est un endroit absolument magique.
On va y revenir.
D'abord, parce qu'il y a des expositions intéressantes de ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui est passéiste, qui s'intéresse à tout ce qui est intéressant par ailleurs. C'est-à-dire la culture scandinave, etc. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui en Suède, que ça soit dans la musique techno comme dans la photographie, etc. D'autre part, c'est un très bon endroit pour aller boire un café et manger un sandwich.
Pas trop
l'art. Non, mais c'est vrai. Là, on a quand même l'une des meilleures adresses, si ce n'est la meilleure adresse de la cuisine scandinave à Paris. Et on a aussi, surtout, j'allais dire, Maria, qui fait quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est une galerie. J'insiste là-dessus parce qu'il n'y en a pas à New York d'équivalent de ce que fait Maria. D'ailleurs, certains des gens qui exposent sont exposés dans des musées à New York. Mais on
exactement
a la galerie la plus pointue, là.
C'est la
Maria
danoise qui est classée parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde des arts par la revue américaine Art and Auction.
Oui.
C'est important, ça vous fait sourire, Maria Vetterman. Mais c'est vrai, ce que vous nous disiez tout à l'heure quand vous avez ouvert en 2010, c'est parce que vous avez une vision différente aussi, que vous avez ouvert finalement ce robinet à nouveau créateurs scandinaves.
Oui, il y avait ça parce que en fait, il y a eu longtemps, on se concentrait sur cet âge d'or du design scandinave qui est fantastique des années 50-60. Mais le fait que quelqu'un a osé prendre un peu le relais, se concentrer sur la nouvelle scène qui ne copie en rien cet âge d'or, mais qui font vraiment des pièces extraordinaires et de qualité muséale. C'est vrai qu'une grande partie sont déjà représentées dans des grands musées tels que le Centre Pompidou ou le MoMA à New York. Et c'est parce qu'ils font des choses excellent et surtout vraiment novateur parce qu'ils sont en train aussi de redéfinir ce que c'est le design.
Moins dans la fonctionnalité, plus peut-être dans un élément sentimental, d'expression artistique.
Oui, absolument. Ça devient comme un laboratoire où les différentes disciplines artistiques dialoguent, c'est-à-dire l'art, l'architecture, l'artisanat et le design. Et pour en créer des synthèses nouvelles, et c'est ça qui est très intéressant.
Alors, on va continuer la petite visite dans un instant. On fait une petite pause et on se retrouve justement pour cette balade scandinave dans Paris. À tout de suite.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Des goûts de hareng fumé, des luxes de designer pour une émission sur le Paris scandinave. Nous sommes toujours en compagnie de Axel Gildon, co-auteur du guide Paris Scandinavie aux éditions du Chêne, de Maria Vettergren, galeriste rue Guénégaud dans le 6e arrondissement, de Peter Toulstrup, la petite sirène de Copenhague, rue Notre-Dame de Lorette, et de Gunilla Noren, porte-parole de l'Institut suédois. Alors justement, l'Institut suédois, Gunilla Noren, c'est vrai que je dois avouer que c'est peut-être l'un des rares lieux, avec quelques restaurants effectivement à Paris, qu'on a l'impression de connaître. Enfin, on a l'impression qu'il se passe quelque chose sur la scène scandinave quand on est parisien. On est dans le Marais. Je n'ai pas encore donné l'adresse, mais on est du côté du Marais. D'abord, il y a un lieu, il y a un hôtel, il y a un immeuble, un hôtel particulier même.
Absolument,
vous y êtes installé depuis 1970. Hein.
65, on a acheté. Donc, 65. En fait, justement, 50 ans de l'achat cette année. Et on a ouvert nos portes en 71. Donc, ça fait quand même pas mal d'années qu'on effectue donc une programmation qu'on essaie d'être le plus diversifié possible. Un peu comme disait Maria tout à l'heure, justement, cette idée de passer d'un genre à un autre, de ne pas nous enfermer dans des... de sorte de cases, voilà, mais mélanger et justement montrer l'aspect le plus contemporain, vraiment qu'est-ce qui se crée actuellement en Suède, que ce soit dans la mode, dans la musique, dans le design ou dans l'art
contemporain. C'est l'unique centre culturel suédois à l'extérieur,
dans le monde.
Voilà. Et il est à Paris, à l'hôtel de Marle.
Voilà. Alors, comment vous expliquez, on va revenir un peu sur la programmation, mais c'est vrai ce que disait Karine, c'est un des lieux on connaît mal la Scandinavie à Paris, d'où l'Utenaguide, mais ce lieu-là, il est fort, les Parisiens le fréquentent, ils rentrent, c'est un vrai échange culturel aussi entre les Parisiens, et je vais dire même le monde entier, puisqu'il y a plein de touristes qui ne sont pas spécialement parisiens qui rentrent, et le petit monde scandinave. Comment vous expliquez? C'est parce qu'il est placé superbement en plein cœur du Marais, avec cette cour intérieure pavée, où on peut d'abord effectivement prendre juste un café parfois et repartir. C'est ça d'abord, c'est l'emplacement, ou c'est quand même, et d'abord surtout, cette dynamique programmatoire?
C'est surtout la programmation.
Voilà, surtout.
Oui, bien sûr, c'est une combinaison de tout ça. Si on n'avait pas le lieu, mais si on n'avait pas la programmation, on n'aurait pas ce succès. On a quand même 100 000 personnes qui viennent tous les ans pour nos différentes activités. Donc, je pense que c'est vraiment un mix de tout ça.
Et là, par exemple, en avril, on a la designer Maria Holmer Dahlgren.
Qui est exposé dans notre café, absolument.
Dans le café suédois. Et ça, c'est un petit peu aussi le centre névralgique, ce café suédois.
Oui, parce que c'est un peu déjà la première chose qu'on voit quand on entre dans la cour pavée. Et c'est aussi... la raison pourquoi on a un café, c'est aussi vouloir donner un petit peu l'accueil à la Scandinave. C'est-à-dire que c'est pas un musée, un lieu, une institution fermée.
C'est un lieu de vie, ouais.
C'est un lieu de vie. Donc, par exemple, je pense qu'on est un des rares centres ou lieux à Paris qui a une table allongée pour enfants. Pour
encore
rejoindre
l'enfant.
Un peu léger de, voilà, autour de, qu'on travaille vraiment autour de ça. Donc, on fait aussi beaucoup de propositions pour la famille, hein, que ce soit.
Ah, c'est parce que c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses. Je veux dire, au niveau musical, par exemple, bon, tout le monde connaît Abba, mais on connaît moins, peut-être, on connaît aussi Avicii, le DJ. Et puis, il y a plein d'autres choses qui se passent. Au niveau de la photographie, c'est pareil. Au niveau du design, je suis certain que c'est pareil. Au niveau de la fashion, au moment de la Fashion Week, moi, je sais que je suis venu, il y avait des expos formidables. Donc, bon, il se passe des trucs, sauf que tout le monde ne va pas en Scandinavie pour aller voir ce qui se passe. Mais si vous allez à Stockholm ou à Copenhague ou à Helsinki, culturellement, c'est vraiment des destinations qui sont très intéressantes.
Et oui, je pense que d'ailleurs, l'un des intérêts, ça rejoint ce que vous disiez, on connaît mal ces pays-là, mais en même temps, ce qui est intéressant dans vos deux démarches, et qui sont souvent scandinaves, c'est de ne pas s'enfermer sur le passé, sur la mémoire. Vous pourriez à l'Institut suédois raconter les grandes heures de la peinture, parce qu'il y a aussi une histoire de la peinture. Mais vous êtes vraiment dans la modernité, vous parliez de passerelles, vous vouliez absolument... Alors qu'est-ce qui obéit quand vous décidez, vous en tant que porte-parole, et toutes vos équipes à l'Institut culturel suédois, qu'est-ce qui décide chaque année? On va marquer l'accès sur la photo, sur la mode, et comment vous sélectionnez ces jeunes créateurs scandinaves pour cette création? Comment vous la sélectionnez?
Bah déjà, on fait un travail de terrain à la maison.
On est quand même au pays.
Oui, un petit peu, quand même. Et puis, surtout, on écoute qu'est-ce qui se passe en France, quels sont les intérêts ici, qu'est-ce qui peut, justement, où est-ce qu'on peut trouver cette passerelle d'offrir quelque chose qui intéresserait les Français, parce que sinon, s'il n'y a personne qui vient.
Alors justement, pour bien illustrer, quelles seraient les 2-3 expositions qui, ces dernières années, ont vraiment très bien marché, parce que, justement, elles opéraient ce point de jonction entre l'intérêt du Parisien et des Français, et puis une certaine dynamique scandinave.
Je pense que, par exemple, l'exposition que nous avons actuellement, qui dure jusqu'au 3 mai, a vraiment suscité beaucoup d'intérêt. C'est sur la publicité à la suédoise. Et en fait, ce n'est pas justement sur le côté esthétique ou graphique, etc., mais c'est aussi sur le pourquoi, en fait, de la publicité. Et que la publicité peut servir à autre chose que juste vendre des couches ou d'autres produits nécessaires. Mais il peut être beaucoup plus. Il peut vraiment aider à l'évolution d'une société.
J'ai vu cette exposition. C'est une petite exposition qui est très intéressante, notamment parce qu'il y a une publicité pour les supermarchés ICA en Suède, oui, qui met en scène un monsieur qui est trisomique, si je ne me trompe pas. Et alors là, le moral de la publicité, c'est qu'en fait, le supérieur du trisomique qui est là, qui est employé, va voir le supérieur du supérieur pour lui dire, mais je comprends pas, il me parle comme un débile. Et bon, donc il y a un propos, si vous voulez, toujours aussi avec cette idée un peu démocratique, oui, de d'égalitarisme, non seulement homme-femme, mais aussi d'inclusion des handicapés.
Et là, on a vraiment une
grosse leçon à prendre en France de la Scandinavie sur l'inclusion sociale, mmh, en particulier des handicapés.
Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant, sur toutes ces questions-là aussi, c'est ce qu'on retrouve dans votre guide de la Scandinavie à Paris. J'aimerais que vous nous expliquiez, puisque vous êtes danoise, Maria Vertegren, le concept de, je ne sais pas comment on prononce, H-Y-G-G-E.
Hygge.
Hygge.
En suédois, c'est le site. C'est le fait, si je peux me permettre.
De bonheur.
Oui,
oui, mais c'est un petit peu, oui, mais c'est Gemütlich allemand ou la Movida espagnole. C'est la Saudade portugaise, c'est ça?
Pas du tout.
Ça a beaucoup à voir avec la maison, en fait, et la protection.
D'accord.
Et entre les quatre murs et quelque chose de... quand on regarde à l'intérieur, à un moment, j'avais un ami français qui venait dans mon pays et il était ébloui par cette vue des maisons, de quand il regardait de l'extérieur, il regardait ces bougies et ces gens qui étaient un peu autour d'une table, comme ça.
C'est zen,
mais ça veut pas dire ça non plus. C'est quelque chose de très psychologique et chaleureux et réconfortant, je crois.
Il y a un art de
vivre. Tu seras d'accord, non?
Ouais, c'est ça.
C'est un art de vivre dans les intérieurs scandinaves. Qu'on explique d'ailleurs dans le guide de la Scandinavie, oui, à Paris, qui est dû à des raisons climatiques, tout simplement.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire, on passe quand même énormément de temps à l'intérieur. Donc,
et qu'il y a quand même souvent la nuit.
Et d'abord, il y a toujours des bougies.
Et celui-là, même en été, il continue d'allumer.
Toujours des bougies. Excusez-moi, mais c'est vrai qu'une bougie, ça vient, ça.
C'est toute l'année.
Moi, je ne peux pas vivre sans. Toujours des bougies à la même.
Il y a des adresses de bougies, vraiment des bougies suédoises.
Dans la rubrique shopping du guide de la Scandinavie à Paris,
il y a toujours
des magasins qui vendent effectivement des bougies et plein d'autres trucs, des petits objets. Les grands designers, Alvar Aalto, etc., ont fait des vases magnifiques que vous connaissez certainement, qui sont, je ne sais pas leur nom, mais qui ont cette forme. Voilà, le vase Savoie. Bon.
Et la petite sirène de Copenhague, elle a ses bougies.
Attends, on a faim.
Vous avez des bougies, rue Notre-Dame de l'Europe.
Justement, on parle de cette fameuse mont Hugues, et c'est ce que je voulais faire dans ce restaurant, la petite sirène, c'est qu'on a fait un instant de bonheur. Dès que les gens y rentrent, déjà il y a un accueil, il y a un instant où les gens ils se trouvent très bien chez eux, dans un cadre très nordique, blanc, clair, allumé par les bougies. La lumière est très présente en nous, tous les pays scandinaves. La lumière.
C'est vrai que vous avez les meilleurs harengs marinés de Paris, c'est vrai?
C'est vrai que les harengs, c'est quand même de grands classiques chez nous, mais on n'a pas que des harengs.
Alors, on va essayer de faire un instant, on va essayer de rentrer dans cette petite sirène. On est dans l'intérieur, comment vous dites là, Knut?
Non, ambiance bistrot à tendance nordique.
Non, mais d'accord, mais en suédois, ça se traduit par
l'ambiance. Plus simple, c'est Hugelit. Hugelit, voilà. Non, mais c'est Hugelit. On rentre dans un havre de paix, tranquille.
Alors après, si on veut, alors, passer à table, quand même, du côté de l'assiette, quels seraient quand même les plats? Parce qu'on ne la connaît pas si bien, on s'arrête un peu au saumon fumé, un peu à harengs, et on s'aperçoit que les harengs, ça va beaucoup plus loin que ça, hein. C'est pas un harengs, mais des harengs. D'abord, les plats vraiment qui sont dans la tradition et que vous.
Je commence souvent de présenter en disant la seule chose qui est vraiment danoise chez moi, c'est moi.
D'accord.
Et j'ai essayé de transmettre le plaisir d'un peu dans la cuisine nordique sur le sucré salé. On a toujours une petite balance qui est très importante que dans tous les plats que je présente sur
ça,
mon restaurant.
Ça, c'est très scandinave, le sucré salé.
C'est sucré salé, toujours. Il y a toujours une balance entre les aigres douces.
D'accord.
Et dans tous les plats, donc harengs, évidemment.
Des harengs. Alors, qu'est-ce que les harengs marinés, plus pas des harengs.
Les harengs, on a autant de recettes que dans l'année, même plus, avec tous les épices qu'on a ramenées de l'extérieur, des curries, des cardamomes, beaucoup, beaucoup de parfums différents. Mais dans les plats traditionnels aussi, par exemple, le fameux cabillaud avec le chou rouge, donc aigre douce, dans le rôti de viande diffère, dans le poisson, on rajoute toujours d'un condiment pour faire sucré salé.
Qui vient accompagner les boulettes de viande, les choux
rouges. Les smørrebrød.
Ce que je pratique pas tellement, mais qui est vraiment un plaisir quand on invite des amis chez nous, c'est on ouvre le frigo, on prend une bonne tartine de pain noir, pain blanc, et on trouve ce qu'il y a. Mais ça peut être encore des rôtis, des petites filets de poisson, des crevettes.
Mais chez vous, vous le fabriquez le pain?
On fabrique pas le pain, on cuit le pain.
Vous cuisez le pain?
Bon, absolument, voilà.
Comme ça, il arrive tout chaud.
Donc, harengs. Sur tarte. Toujours la notion des gredoux, les harengs, les rôtis, les pièces rôties. On imagine, comme c'est le Nord, qu'il y a une culture du poisson. Quels seraient les plats un peu de poisson marin? C'est la grande vogue aujourd'hui à Paris qui raconte beaucoup la cuisine scandinave. Or, le hareng.
Nous, on essaye d'importer pas mal de poissons de Danemark. Et donc, c'est vrai qu'on a un petit eldorado sur le crustacé. Ce qu'on peut penser, mais c'est quand même l'angoustine, ça vient de Danemark. J'ai du sole, j'ai de la lotte. On a des gros poissons qui viennent direct de Danemark qu'on essaye de travailler dans ce contexte sucré-salé.
En dessert, parce que là, on parle beaucoup de poissons.
Aussi, l'écrevisse,
faut pas oublier.
La fête de l'écrevisse, normalement.
Ah ben ça, c'est... Là, on enlève le tablier et on mange avec les doigts. Il faut que ça coule.
Voilà,
et ça, là, on est...
À la nette, c'est bon, ça.
Là, on est vraiment dans la grande fête scandinave, absolument.
Et dessert, pas dessert, un tiramisu danois?
On fait tantôt les tiramisu, mais on a toujours un petit clin d'œil sur pourquoi. Donc là, par exemple, on a fait des tiramisu avec des liqueurs danoises, parce qu'on n'a pas que des aquavites, on a aussi pas mal de petites vodka douce, sucrées, les hering, puis la hering à la base de cerises. On fait beaucoup avec les pâtes amandes, marzipan. On fait beaucoup de, non, des gâteaux danois classiques grand-mère, comme éplequet, épleterre. Donc on a pas mal de...
Comment vous expliquez, Peter, parce qu'à vous écouter, c'est vrai, quand on revoit, il y a une cuisine à la fois familiale, chaleureuse, hein, qui peut avec des plats de corps, et puis aussi quand même une cuisine très saine dans les gredoux, ça parle sucré-salé, ça parle beaucoup à nos papilles contemporaines. Quand on parle de poissons, ça parle énormément à nos papilles contemporaines. Comment vous expliquez qu'il y ait si peu de restaurants scandinaves à Paris? Il y a vous, quelques autres, mais tellement peu.
Non, mais il faut reconnaître
que... Parce que je suis sûr que les Parisiens accrocheraient à cette cuisine-là.
Parce qu'il faut quand même revenir en disant qu'il y a certains Danois qui sont restés en France. Donc moi, les autres, ils sont venus pour acquérir une qualité, un savoir-faire culinaire français.
Ils sont partis
vite fait pour quand même établir une vraie vague en Scandinavie.
Ah oui, c'est le fameux
sur les techniques, Noma. On a Rasmus Kofod qui trois fois a gagné quand même beaucoup d'or. Et ces jeunes, ils ont acquis une technique après nous.
Ils sont repartis.
Et ils sont revenus au pays.
Axel,
cette année, c'est faire le Bocuse d'or, si je ne me trompe pas, est norvégien, et le Bocuse de bronze est suédois.
Ils sont faits presque les trilogues des dernières années. Et je pense que c'est l'effet qu'il y a une vague en disant qu'ils ont créé quelque chose de tout nouveau dans la gastronomie mondiale, avec les produits autour d'eux.
Je pense que c'est une tendance qu'on voit un peu partout, mais qu'en Suède et je pense au Danemark aussi, c'est justement le côté locavore, c'est-à-dire que de chercher les produits locaux, de rechercher dans les traditions, mais tout en s'imprégnant de ce qui vient d'ailleurs.
La petite sirène de Copenhague, c'est 47 rue Notre-Dame de Lorette. On va terminer, Maria Vetargan. Qu'est-ce que vous avez à l'affiche en ce moment?
J'ai une exposition extraordinaire qui s'appelle Japonométrie. C'est une invention, c'est un peu compliqué. C'est une invention de mots par le designer Rasmus Fenhan qui révèle deux sources d'inspiration, le Japon et la géométrie. Et ce sont des œuvres vraiment incroyables, multifacettées, géométriques, mais avec cet esprit zen de l'ébénisterie japonaise. Et quand je dis zen, c'est vraiment l'idée qu'on peut zoomer à l'infini sur une œuvre et on va découvrir aucune erreur, aucune faute. C'est extraordinaire.
C'est la quête de la perfection.
On comprend
la
pourquoi
quête de la perfection.
Ça vous plaît. Et tout ça, on retrouve donc dans le 6e arrondissement, 18 rue Guénégaud. On va redonner aussi l'adresse de l'Institut suédois, Gunilla.
11 rue Payenne.
Exactement. Et toutes les autres adresses, les 147 autre adresse que vous citez, Guide de la Scandinavie à Paris aux éditions Duchesne, Axel Gilden et Katia Barrio. Et je voudrais citer aussi le photographe Pierre-Olivier Signé. Voilà.
Pierre-Olivier Signé, dont on a vu les photos défiler pour l'émission, qui a un très bel ouvrage, et aussi l'illustratrice Iris Demouy qui avait très très jolies illustrations.
C'est un très bon guide parce que vraiment il y a les adresses, une micro-sociologie de la Scandinavie.
Voilà. Et on a plus le temps.
Et puis rapidement aussi des lieux, parce qu'il n'y a pas que des adresses pour choper, mais des lieux à l'Institut suédois, entre autres. Mais on voit vraiment comment s'active une communauté et surtout on a envie de aller à sa rencontre.
Bon, maintenant vous mettez au fourneau les petits plats scandinaves de Peter Toolstrup. C'est les petits de Petit Renaud et c'est aux éditions Minerva. Merci beaucoup à tous les quatre. Axel Gilden, donc, pour le guide. Maria Vetargren, merci beaucoup à vous. Peter Toolstrup. Et Gunilla Noren, merci beaucoup à tous les quatre. Allez, restez avec nous. Goodlux Paris continue dans un instant, c'est l'agenda.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goodlux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et dans un instant, l'agenda dans Goodlux Paris. Mais tout de suite, on poursuit nos balades parisiennes. Après la Scandinavie, je vous emmène sur les traces du
café. Et oui, c'est le livre de la semaine, Emmanuel. Le guide de l'amateur de café à Paris, Michel Caponeau, aux éditions Parigramme. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ces petites éditions-là. Paris est à nous, aux éditions Parigramme. Le petit guide avec juste pour illustration des petits dessins, c'est pas forcément là le propos. Mais Michel Caponeau est un passionné. Il anime un blog sur le sujet qui s'appelle caféoblog.wordpress.com. Et donc, qu'est-ce qu'on y trouve? On y retrouve d'abord un petit historique, on replace les choses sur le café, les méthodes de préparation aussi, là aussi on replace le sujet. Et bien sûr, le gros du guide, ce sont les adresses, donc aussi bien des cafés chics, des coffee shops, des torréfacteurs.
Des brûleries.
Des brûleries. Alors, ce qui était étonnant, c'est
qu'il... étonnant parce qu'on avait fait une émission, je crois, l'an passé.
C'est ça.
Il y a vraiment aujourd'hui une petite révolution du café avec les baristas qui travaillent. La mousse, mais au-delà de ça, les crus, le café quasiment, les deux écoles. Vous vous souvenez de l'émission, hein, il y avait l'ancienne école face à la nouvelle école qui est un peu comme dans la vie de nature, qui plaide pour des cafés de terroir très marqués en goût qu'on ne doit plus déguster avec du sucre au sacrilège. Non, non. Enfin, il y a du propos, enfin un guide qui mérite d'accompagner.
Il y a même, on termine même sur comment jouer au barista chez soi. Donc voilà, petit mode d'emploi. Mais dans les adresses, ce qui est sympathique, c'est que vraiment Michel Caponeau est allé chercher loin. C'est-à-dire que vous avez aussi bien un bar qui va vous servir une belle carte de café. Déjà, pour lui, ça mérite d'être dans le guide parce que ça mérite d'être signalé que effectivement la brûlerie, même si au départ c'est un marchand de fruits secs, par exemple, et épicerie, qui fait quand même du café, il va être signalé. Donc vraiment, et vous en avez dans tous les quartiers, on s'aperçoit quand même 10e, 11e, pas mal de spots à ce niveau-là, notamment dans les nouveaux coffee shops. Exactement. Mais voilà, pour les amateurs de café en tout genre, vous avez désormais le petit guide indispensable pour suivre la route du café dans Paris. Je pense qu'il est presque déjà obsolète vu le nombre d'ouvertures en ce moment, même s'il vient de sortir. Il vient tout juste de sortir, mais quand je dis ça, c'est que ça bouge très très vite.
Les clés qui sont déjà obsolètes.
Exactement. Allez, l'agenda.
Goodlux Paris, l'édition du week-end, l'agenda.
Et alors là, s'il vous plaît, vous ne les avez pas, donc je vais les faire. Tambour, exclusivité, Emmanuel Ruin.
Exclusivité alors, petite exclusivité parce que ça va vraiment être inauguré dans quelques jours, mais il n'y a pas eu de communication, ils prennent leur marque. C'est l'arrivée du côté de Roissy, d'un terminal de Roissy, d'un restaurant qui s'appelle I Love Paris, signé Guy Martin, le chef du Grand Véfour, pour la décoration India Madhavi. Alors dit comme cela, un nouveau restaurant de grand chef, Guy Martin, qui aime à collectionner les restaurants, lui doit bien sûr, outre son Grand Véfour, le fameux restaurant sur les Champs-Élysées de la Maison Guerlain. Simplement, c'est que l'idée toute simple de Guy Martin, c'est qu'il n'y a plus de restaurants gastronomiques dans les aéroports. Il y a tout. Et notamment, c'est devenu le sixième continent, vous savez, ces aéroports, notamment le continent du luxe.
C'est un drôle de pari, ça, quand même, est-ce qu'on va s'arrêter?
Mais ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, dans les aéroports, où vous passez beaucoup de temps, et surtout, il y a le monde entier qui passe du temps, on l'appelle pas pour rien le sixième continent, avec des duty-free ou des galeries où les plus grandes enseignes du luxe et de la tendance viennent se servir, non seulement parce qu'ils y font du business, mais en plus parce que c'est des vitrines formidables, eh bien... Au niveau de la gastronomie, il n'y a plus rien. On est entre le prêt-à-manger et le prêt-à-mâcher. Et bien, il va y faire un restaurant en deux temps. Il y a d'abord, tout de même, pour cette rapidité qu'on veut et qu'on demande aussi parfois quand on est les emports, un petit comptoir où on snackera très rapidement. Et puis surtout, un restaurant gastronomique, mais plutôt dans l'idée de la brasserie chic, ouvert du matin au soir. Alors, le matin au soir, c'est plutôt pour le côté snacking, mais au déjeuner, midi, 15h et les soirs, 19h jusqu'à la fermeture des lignes 23h, une vraie brasserie parisienne. Ils mixent des plats à la fois très contemporains, parce que c'est vrai que quand on prend l'avion, ou quand on arrive, pour ceux qui ont envie vraiment de dérégler, on a vu peut-être d'une nourriture un peu légère, printanière, et puis tout de même, pour ce monde entier qui vient à Paris, quand ils repartent, ils ont envie d'un dernier petit clin d'œil parisien du côté de l'assiette. Donc il va travailler la blanquette, il va travailler un vrai pot-au-feu, il va travailler une superbe entrecôte avec une vraie béarnaise et des frites. En vérité, c'est la force des évidences, mais toutes les marques de luxe, et aujourd'hui, les aéroports et aéroports de Paris essayent de montrer que Paris est une grande patrimoniale, est une grande marque. On avait pensé à tout, sauf à la gastronomie, dans les années 70.
Même s'il y avait de grandes marques de luxe, comme La Durée, comme la Maison de Chocolat, qui s'est installée, bien sûr.
C'était comptoir, c'est plus de la pâtisserie, il n'y a pas de restaurant. Et vous savez, vous-même, des fois, quand on est à arpenter, si on n'a pas la chance d'être en business et d'avoir accès au lounge, bien, on perd son temps. Vaut mieux perdre son temps 2 heures à table que 2 heures à arpenter comme
mais
ça, et à lire un mauvais journal sur un mauvais siège avec un mauvais sandwich.
La naissance d'Orly, c'était ça aussi. On s'arrêtait aussi pour se restaurer.
Il y a eu pendant des années, dans les années 70, Maxim's, qui avait une enseigne à Orly, à Roissy, ils avaient même tapé l'étoile Michelin parce que les gens prenaient le temps. On a oublié cela. C'est le pari de Guy Martin. Moi, je trouve que c'est une belle idée.
À suivre. Vous allez tester quand même.
Ah, ça, bien sûr, j'ai testé.
I love
si
Paris.
C'est pas bon,
Mais vous reviendrez. Hein, vous n'avez pas le droit de prendre l'avion. Guy Martin et India Madhavi à la déco. Allez, deux annonces de vente aux enchères. J'en fais une, vous ferez l'autre. Emmanuel, Chanel intemporel le 13 avril à l'hôtel Drouot. D'ailleurs, ce sera deux ventes le même jour. Donc là, toutes les pièces emblématiques de Chanel, le tailleur en tweed, la veste gancée, le sautoir, le sac matelassé, sera le rendez-vous le 13 avril. Et ça me donne l'occasion de vous annoncer que vous savez ce qui va se passer du côté de Drouot. Il va y avoir l'Adjugé. Et l'Adjugé, qu'est-ce que c'est? Un petit coin, là aussi, pour se restaurer. Imaginez comme un bar-atelier. Il y a un trio de jeunes talents qui a été choisi par les commissaires-priseurs. Amandine Chéniaud à la cuisine, Jérôme Moreau et Erwan Boulou à la déco. Là aussi, ça vous fait du boulot, Emmanuel. Hein, vous irez
tant
tester.
Mieux. J'ai que ça à faire la semaine, hein, pendant que vous bossez. Alors, même jour. Du côté de chez Arcuria, le rond-point des Champs-Élysées, 13 avril, début des enchères, 14h30, en serre, bijoux et montres. Alors, avec beaucoup de bijoux, notamment de la marque Cartier, et puis beaucoup de montres, notamment avec des Rolex. C'est vrai que, vous savez, notamment dans l'univers des montres, il y a beaucoup de faux, et notamment du côté de Rolex. Là, au moins, on sait que pour qui veut capter des montres de certaines marques, on est sûr qu'elles sont blindées et expertisées, et que vous ne glissez pas du côté du faux. C'est plutôt un gage de qualité, et c'est vrai qu'on a des pièces vintage qui ont souvent une mémoire qu'on peut d'ailleurs fantasmer. Vous savez, on se dit, qui a porté cette montre ou ce collier avant moi? Puis surtout, voir défiler comme ça des pièces assez uniques. Et il y a en plus des très belles affaires à faire. C'est toujours un plaisir pour les amateurs.
Donc c'est le 13 avril, vous notez, Chanel chez Drouot et bijoux et montres chez Arcuria.
J'irai faire un tour. 14h30, vous êtes à l'antenne, vous. Pas de chance.
On va terminer avec une exposition Balenciaga. Mais une exposition Balenciaga sur la dentelle. Et alors là, c'est assez étonnant parce que figurez-vous que Balenciaga était aussi un magicien de la dentelle. Et donc, à la Cité de la Dentelle et de la Mode, à Calais, ouvre le 18 avril et ça va durer jusqu'en août. Et d'ailleurs, cette exposition, elle vient d'être reconnue d'intérêt national par le ministère de la Culture à l'occasion des 120 ans de la naissance de Cristobal Balenciaga. Eh bien, la Cité de la Dentelle consacre une exposition aux grands couturiers, donc toute l'œuvre en dentelle. On a des accessoires, des vêtements. Vous savez qu'il avait fait des écharpes, des étoiles, des capes, des boléros, des tubes, des mantilles, j'en passe, et des meilleurs. Bien sûr, aussi, on retrouve tous ces fabricants de dentelle, Maresco, Dognin, Brivet. Tout le savoir-faire des leçages et consorts. Il y a près de 75 tenues et accessoires, des photographies, des croquis d'atelier. Absolument un travail splendide.
Et puis, comme on n'a pas eu le droit à notre petit good luck d'ici, d'ailleurs, vous savez, Capucine était en off, en voyage. Puisqu'on parle de Balenciaga, on était du côté de Calais, un peu loin de nos horizons. À l'occasion, lorsque vous visiterez le Pays Basque espagnol à une heure de San Sébastien, vous arrivez dans le petit village où est né Cristobal Balenciaga, puisqu'il était espagnol.
Et Guetaria.
Là, il y a un musée. Comment ?
Guetaria.
Guetaria. Et le musée, pour l'avoir visité il y a très peu de temps, est exceptionnel. C'est d'abord un chef-d'œuvre d'architecture immense. Mais quand je dis immense, on se demande. Et alors, vous avez toute l'histoire de ce couturier qui est arrivé finalement très tard à Paris. Il avait déjà une carrière en Espagne. Et alors, il y a des modèles exceptionnels. Vraiment, aller du côté
Calais,
de Guetaria.
De Calais à Guetaria, en Espagne, alors, pour Cristobal Balenciaga.
On a improvisé un good luck d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on dit? On dit merci.
Merci. Et Capucine Gravy reviendra la semaine prochaine. Il faut bien qu'elle aille chercher ses adresses.
Oui, c'est vrai.
Forcément.
Journaliste de terrain.
Exactement. Allez, merci beaucoup, Emmanuel. À la semaine prochaine. Alors, vous reviendrez.
Ouais. Bah, j'aurais fait des enchères, un restaurant à Roissy, la nuit est belle.
Allez, dans un instant, good luck Paris, la suite, le best-of de la semaine.